Voilà, bonsoir à tous. Donc, comme ça a été dit, on a pour sujet ce soir la seconde venue de Jésus-Christ. Et c'est un sujet qui est ultra présent dans la Bible. Selon René Pache, il y aurait 1527 allusions à ce retour dans l'Ancien Testament et 319 dans le Nouveau Testament. Ailleurs, j'ai lu qu'il semble que ça correspond à un verset sur 25 dans le Nouveau Testament. Alors, là, on peut déjà tirer deux choses. C'est que est-ce que c'est vraiment aussi présent dans notre vie chrétienne que dans la parole de Dieu, ce sujet? Est-ce qu'on y pense aussi souvent? Et puis la deuxième chose, c'est que ce soir, c'est évidemment évident qu'on ne va pas voir chacun de ces passages. Donc on va essayer de voir les différents événements qui sont liés à ce retour de Christ. Donc il y aura premièrement les signes annonciateurs. On verra les faits physiques et tangibles. Ensuite, les faits spirituels et moraux. Ensuite, on va parler de la seconde venue de Jésus-Christ. Quels sont les événements liés à cette venue qui sont cités dans la Bible? On va voir premièrement le retour en gloire, ensuite le retour en grâce, donc l'enlèvement des croyants. On va parler du tribunal de Christ et puis des noces de l'agneau. Ensuite, on va essayer de placer ces événements dans un ordre chronologique. On verra qu'il y a plus ou moins quatre schémas qui sont acceptés parmi les différents groupes de chrétiens. En plaçant ces événements dans des ordres différents, et on va essayer de voir lequel de ces schémas est le plus cohérent par rapport à ce que la Bible enseigne. C'est toujours délicat de travailler avec un schéma, parce que le but, ce n'est pas d'avoir un schéma et puis de forcer les versets bibliques à l'intérieur de ce schéma, mais plutôt en étudiant la Bible, de voir quel schéma se dessine. Mais forcément, on est influencé par notre contexte, notre historique, et cependant, on va essayer d'être aussi, de se laisser éclairer par la Bible et non pas de forcer la Bible à dire ce qu'on a envie qu'elle dise. Et puis, on va essayer de tirer quelques petites conclusions. Il y aura beaucoup de textes bibliques qui seront lus. Je les ai mis pour la plupart sur l'écran. Et puis, les autres, on ne va peut-être pas tous les chercher. Ils seront simplement lus comme ça. Donc pour commencer, je propose de lire le texte de Matthieu 24, 1 à 14. Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et les disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Et lui répondant leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici, pierre sur pierre, qui ne soit jeté à bas. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant, « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ?» Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Moi, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. » Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. » Mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Au début de ce passage, les disciples posent trois questions au Seigneur. La première, c'est quand aura lieu la destruction du temple? On voit que c'est un peu ce sujet-là qui a lancé ce discours du Seigneur. Ensuite, il demande quel sera le signe de ta venue, quel sera le signe de la consommation du siècle. On peut penser que les disciples n'avaient pas compris, pas conscience que la première question n'était pas liée aux deux autres. Puis les deux autres, elles sont nuancées, mais c'est aussi une question différente. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, le Seigneur parle avant tout de son retour en gloire. Dans l'évangile de Jean, il parle du retour pour enlever les croyants. Mais là aussi, il semble que les disciples n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas encore compris le mystère de l'Église. Et donc ici, le Seigneur va parler plus du retour en gloire. Et c'est aussi ce que les disciples attendaient finalement, puisque eux, ce qu'on voit au travers des évangiles, c'est qu'ils attendent le royaume du Seigneur et aussi la place qu'ils pourront y occuper. On voit que c'est une de leurs préoccupations majeures jusqu'à la fin du ministère du Seigneur. Donc, dans la réponse que le Seigneur donne, apparemment, il laisse de côté la première question. La question quant à la destruction du temple. Et puis, à part, on verra peut-être si on a le temps à la fin, à part dans l'évangile de Luc où il y a juste une mention de cette destruction. Mais sinon, il répond avant tout par rapport aux deux dernières questions, donc le signe de sa venue et le signe de la consommation du siècle. Donc, dans ce texte-là, on voit plusieurs signes physiques et tangibles. Dans les versets 6 et 7, il parle de guerre et de bruit de guerre. Il parle de royaume contre royaume. Ensuite, il parle des famines, des pestes et des tremblements de terre. Donc, si on veut placer les choses dans le contexte actuel, des guerres, on peut dire que les guerres dans le pays d'Israël, on y est presque habitué, parce que ça fait longtemps que ça dure. On peut dire aussi que depuis 2011, il y a eu, disons, on peut dire, plus de conflits avec tout le printemps arabe. On sait aussi la situation en Ukraine. Donc, il y a une augmentation de conflits au niveau mondial. Mais d'après ce que le texte indique, il semble que ce sera vraiment quelque chose qui deviendra généralisé. Il parle des pestes. On a eu l'année passée l'épidémie d'Ebola. J'ai entendu la semaine passée que, sauf erreur, mercredi, les Nations Unies devaient annoncer la fin de l'épidémie et puis qu'il y a un nouveau cas qui s'est déclaré jeudi. Donc, on n'est pas au bout. Mais là aussi, c'est une peste, on peut dire, qui est régionale dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Alors que là, le Seigneur parle de quelque chose qui sera vraisemblablement généralisé. Et puis, pour les tremblements de terre, j'ai essayé de trouver des graphiques sur Internet qui montrent leur fréquence. C'est difficile de voir entre la quantité et la force des tremblements de terre. Il y a eu vraisemblablement une augmentation entre 2000 et 2010, puis depuis, de nouveau, une diminution. Donc, on voit là des signes qui sont annonciateurs, mais le Seigneur le dit aussi, ça n'est pas encore la fin, c'est annonciateur. Et puis, ils vont vraisemblablement s'intensifier et se généraliser jusqu'à ce que ce soit vraiment l'annonce de sa venue. On a aussi au verset 6 l'expression « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Et là, on le voit déjà actuellement, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde en entend parler avec l'information instantanée telle qu'on peut la suivre aujourd'hui. Ensuite, parmi les signes spirituels et moraux, au verset 14, c'est intéressant de voir qu'il y a une globalisation de la prédication de l'Évangile. C'est dit que l'Évangile sera prêché dans la terre habitée tout entière en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc ça, c'est une fois que l'Évangile sera prêché, l'Évangile du royaume sera prêché universellement, là aussi, ce sera vraiment un signe que la fin est imminente. Sinon, pour les signes spirituels et moraux, on peut lire la suite du passage de Matthieu 24, 23 à 31. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. Si donc on vous dit, voici, il est au désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus les quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre. Donc le signe moral qui est le plus mentionné dans ce passage et dans tout le chapitre, c'est l'apparition de faux Christ et puis aussi la fausse annonce de sa venue. Ces faux Christ seront crédités par des faux miracles, ils parlent même de grands signes. Et puis, donc, c'est aussi quelque chose qui va se généraliser. On voit aujourd'hui que les gens sont prompts à suivre tout ce qui est surnaturel. Donc, on n'est pas étonné de voir que ces faux Christ vont faire des miracles pour essayer d'entraîner les gens à leur suite. Et c'est même dit qu'ils vont même tenter d'emmener avec eux des élus. Comme autre signe, on voit dans le passage parallèle, dans Luc 21, les versets 25 et 26, il y aura des signes dans le ciel et la lune et les étoiles. Et sur la terre, une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de peur à cause de l'attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Dans ce passage, c'est dit littéralement que les hommes vont mourir de peur à la vue de ce qui va se passer. Au temps des rois, l'Éternel se nommait l'Éternel des armées. Et puis Roger Libby disait qu'il parlait de l'armée des cieux, de toutes les planètes et les étoiles qui ont un ordre parfait, qui tournent. Et tout ça, finalement, l'Éternel des armées, c'est celui qui commande tout le cosmos. Et à ce moment-là, il va y avoir des grands bouleversements et qui vont être terrifiants pour ceux qui les verront. Et le passage dit littéralement que les gens vont rendre l'âme de terreur. Un autre signe, on peut le lire dans 2 Thessaloniciens 1, versets 1 à 3. Là, je ne l'ai pas mis, je le lis simplement comme ça. « Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler. » Ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition. Donc là, Paul cherche à rassurer les Thessaloniciens qui, face aux persécutions qu'ils vivaient, se disaient que finalement le jour du Seigneur était peut-être déjà arrivé. Et il leur dit non. Absolument pas, car à ce moment-là, l'apostasie sera généralisée et puis l'homme de péché sera révélé. Cet homme de péché qui est identifié comme la bête de l'Apocalypse ou comme l'Antichrist. Alors, si l'apostasie doit être révélée, arrivée à son comble à ce moment-là, on peut voir que déjà, il y a de manière générale une révolte contre Dieu. On peut le voir dans les nations occidentales qui finalement se déchristianisent. Mais là aussi, ce sera encore un phénomène qui va se propager universellement. Donc, tous ces signes qu'on a vus, on peut dire qu'on en voit les prémices, mais là aussi, il faut garder à l'esprit qu'ils vont se généraliser. On va maintenant considérer les différents événements qui sont annoncés en rapport avec la seconde venue de Christ. Donc le premier, c'est le retour en gloire. Ce retour en gloire, il est annoncé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Premier passage qu'on peut lire, c'est Ésaïe 9, versets 6 à 7. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Et le gouvernement sera sur son épaule et on appellera son nom Conseiller, Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice dès maintenant et à toujours, la jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Donc, dans ce passage, on voit que les deux premières phrases ont été réalisés par la venue du Seigneur il y a 2000 ans. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et ça s'arrête là. Toute la suite qui parle de gouvernement sur son épaule, de Dieu fort, Père des siècles, Prince de paix, ça ne s'est pas encore réalisé sur terre. L'accroissement de son royaume, de manière éternelle non plus. Donc, on voit que dans cette prophétie, il y a une partie qui s'est déjà réalisée lors de la première venue de Christ, et il y aura une deuxième venue glorieuse qui est encore à venir. Deuxième passage, Zacharie 14, versets 3 et 4. « Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fondra par le milieu vers le Levant et vers l'Occident, une fort grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et la moitié vers le midi. » Dans ce passage, on a une autre notion qui apparaît quant à ce retour en gloire, c'est qu'il y aura une grande bataille. On peut rapprocher cela de la bataille d'Armageddon, dont il est parlé en Apocalypse 16:16. Donc ce sera la coalition générale des armées mondiales pour détruire Israël, et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus viendra pour délivrer son peuple et anéantir les hommes en rébellion. Ça nous dit aussi dans ce passage qu'il va atterrir, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, donc il va arriver sur le mont des Oliviers. Et puis, on peut mettre ce passage en parallèle avec celui de Actes 1, verset 10 à 12, où les disciples viennent assister à l'élévation du Seigneur, à son ascension au ciel. Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus en blanc se tinrent là à côté d'eux, qui aussi dirent « Homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'un sabbat. Donc on voit dans ce passage que, effectivement, du lieu où le Seigneur s'est élevé, il va aussi revenir pour délivrer son peuple lors de son retour en gloire. En Apocalypse 1, verset 7, on lit encore « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » On voit ici pourquoi il ne faudra pas sortir quand des faux prophètes annonceront la venue du Christ, comme on l'a lu dans le passage de Matthieu. Personne n'aura besoin d'annoncer cette venue à son voisin, puisque au moment où il apparaîtra, tout œil le verra. Deuxième événement, en rapport avec la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement des croyants, l'enlèvement de l'Église. Donc, cet événement va précéder la venue en gloire, mais par contre, sa révélation était plus tardive. C'est seulement dans les évangiles, d'abord plutôt l'évangile de Jean, puis ensuite dans les épîtres, que ce mystère a été révélé. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de révélation quant à l'Église. Donc c'est logique que l'enlèvement de l'Église n'a pas été annoncé non plus. Donc on peut lire un premier passage, c'est en Corinthiens 15, versets 51 et 52, où Paul parle justement de ce mystère de l'enlèvement. « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. » En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles et nous, nous serons changés. Donc voilà, c'est un mystère qui est annoncé dans les épîtres d'une manière particulière. On voit que dans les évangiles, les disciples n'ont jamais compris cela. On a une description un peu plus précise de cet événement dans 1 Thessaloniciens 4, où Paul enseigne sur la résurrection des morts et qu'est-ce qui va se passer. Donc, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. « Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. » Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. » Donc c'est une consolation que l'apôtre Paul veut apporter aux Thessaloniciens. Et puis, en parlant de cet enlèvement, on peut y voir quatre points clés. Premièrement, c'est la résurrection des morts en Christ. Donc, on peut penser, à ce moment-là, ce sera vraisemblablement que les croyants de l'ère chrétienne qui vont ressusciter. Puis ensuite, ils vont s'élever avec les croyants vivant à ce moment-là à la rencontre du Seigneur en l'air. Cette rencontre aura lieu en l'air. Dans ce passage, ni dans celui de Corinthiens, on voit que le Seigneur revient jusque sur la terre. Et puis, le dernier point, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y aura une unité avec le Seigneur pour l'éternité. Le point suivant, ce sera le tribunal de Christ. On lit en 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon qu'il aura fait, soit bien, soit mal. » Dans ce passage, l'apôtre Paul parle finalement de son souhait de pouvoir être introduit dans la présence de Dieu, en disant que c'était bien meilleur que de rester sur terre. Mais, étant donné que ce moment tardait, eh bien, en attendant, il fallait marcher en plaisant à Dieu. Et de manière particulière, puisque quand on rentrera en présence de Christ, eh bien, on passera devant ce tribunal. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce tribunal, il ne va pas prononcer de jugement ou de condamnation. Il va donner une appréciation de la vie des croyants. En Jean 5, 24, on lit « en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. » Donc, ça nous confirme que ce tribunal va être un tribunal d'appréciation et de récompense, mais pas un tribunal de jugement et de condamnation. Et c'est un tribunal où seuls les chrétiens auront à comparaître. Il faut bien faire la différence entre ce tribunal et le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc qui est annoncé en Apocalypse 20 et qui sera le lieu de jugement des morts, de ceux qui sont morts hors de la foi en Dieu, hors de la foi en Christ. Et là, il y aura une condamnation à être jeté dans l'étang de feu pour tous ceux dont les noms n'auront pas été trouvés dans le livre de vie. Ce sera un moment où le livre de vie sera consulté pour démontrer que ceux qui comparaissent n'y figurent pas et que le jugement est bel et bien justifié. On va lire un autre passage qui parle de ce tribunal de Christ. En 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement, donc le fondement c'est Christ, sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte. Mais lui-même, il sera sauvé, toutefois, comme à travers le feu. Donc, dans ce passage, on a un éclairage un peu plus détaillé de ce qui va se passer lors de ce tribunal de Christ. Mais tout d'abord, pour ne pas tordre le contexte, il faut lire les versets avant, où on voit que l'apôtre Paul parle ici particulièrement des prédicateurs et des docteurs, donc le fondement posé, et ensuite l'enseignement qu'ils vont donner pour construire l'Église. Mais au-delà de ça, on peut le transposer à tous les croyants, vu que chacun est appelé à édifier l'Église, tel qu'on voit dans Éphésiens 4. Donc, on peut faire une application pour nous aussi. Et on voit donc que c'est le feu qui révèle l'œuvre de chacun. Et puis, on a trois exemples de matériaux qui survivent au feu et trois autres qui se consument, donc l'or, l'argent et les pierres précieuses, et puis le bois, le foin et le chaume. Donc, on comprend bien qu'il y en a qui vont brûler, d'autres qui vont survivre, et par rapport à l'œuvre, on pense souvent que voilà, on doit amener des bons matériaux pour cette construction, pour la construction de l'Église, Et puis aussi, il y a une certaine quotité qui sera récompensée. Si quelqu'un a un ouvrage qui est, on dit, mais minuscule par rapport à quelqu'un qui a beaucoup pu servir le Seigneur, c'est aussi un critère qui sera récompensé. On doit aussi penser à la motivation qui va entraîner la construction de l'ouvrage, le travail à l'ouvrage. En Matthieu 19, verset 29, on lit « Et quiconque aura quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou champ, on recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Mais entre deux, il y a pour l'amour de mon nom. C'est ce qui est fait par amour pour le Seigneur qu'il récompense ce qui est cher pour son cœur. Donc, on voit que l'œuvre de chacun sera testée par le feu. Et puis, si l'œuvre de quelqu'un est entièrement consumée, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, on l'a dit, ce n'est pas un tribunal de condamnation, mais un tribunal d'appréciation. Donc, cette personne sera sauvée, même si c'est comme à travers le feu. Donc, dans ce constat, on peut se dire, eh bien, va bien, quoi qu'on fasse. De toute façon, si on a le salut, on ne risque pas de le perdre. Et puis, on peut être sur un oreiller de paresse. Mais ce passage nous encourage beaucoup plus à être diligent pour le Seigneur, à le servir, et puis à avoir à cœur l'édification de son Église. Et puis, il y aura une récompense pour les croyants qui auront été fidèles dans ce service. Ce passage, il peut aussi nous aider si on est face à des personnes qui ont finalement un problème avec le salut par les œuvres, puisque on voit que les personnes qui cherchent un salut par les œuvres cherchent une récompense pour leurs œuvres. C'est juste qu'ils ne cherchent pas la bonne récompense. Le salut est offert par Dieu gratuitement, et les œuvres sont récompensées de manière éternelle, mais elles ne sont en aucun cas quelque chose qui va nous aider à acquérir notre salut. On le reçoit par la grâce de Dieu. Un quatrième point qu'on va voir, ce sont les noces de l'agneau. C'est le moment glorieux où Christ reçoit son épouse, celle pour laquelle il s'est offerte lors de sa première venue, lors de sa mort à la croix. On lit dans Éphésiens 5, les versets 25b à 27. Le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin qu'il se présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. On peut dire que Christ, à la croix, il a payé la dot de son épouse. Il se l'est acquise, et puis depuis, il l'accompagne dans la sanctification et la purification pratique, ce que Paul cherchait à enseigner aux croyants par ses différentes épîtres, ce qui est toujours notre but en tant qu'Église actuellement. On voit également dans 2 Corinthiens 11, verset 12, que Paul dit toujours « Je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Dans ce verset, on voit la fidélité que l'Église doit au Christ, la pureté dans laquelle elle doit se conserver, en vue de son union avec lui. C'est comme dans un mariage humain. Et peut-être même plutôt que le mariage humain est une image de ce que l'union de Christ et de l'Église doit être, ou devrait être. On lit donc un passage qui nous parle de ces noces, de l'agneau et de l'Église. En Apocalypse 19, versets 6 à 9, « Et jouis comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, Et sa femme s'est préparée et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Et il me dit, écris bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Donc, on a ici une description du moment où Christ reçoit son épouse. Ce moment est décrit dans l'Apocalypse juste après la destruction de la grande prostituée. Et puis, juste au moment, vraisemblablement juste avant la venue en gloire de Christ, là où il va justement détruire la bête, le faux prophète et les armées, les rois de la terre qui s'étaient rassemblés pour détruire Israël. C'est donc la bataille d'Armageddon. Et puis dans ce passage, le verset 8 souligne particulièrement la responsabilité des saints, puisque ce sont leur justice ou leurs bonnes œuvres qui servent de vêtements. Donc c'est le fin lin qui sert de vêtements à l'épouse. Donc là aussi, on a encore un encouragement au service, un encouragement à produire les justices, des bonnes œuvres. Il y aura une récompense au tribunal de Christ, mais ce sera aussi le vêtement de l'épouse au moment des noces de l'agneau. Qu'est-ce que ça peut être que ces justices des saints? Eh bien, c'est rechercher une sanctification pratique. Dans la Bible, c'est dit la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est se maintenir dans l'amour de Dieu. C'est rechercher le bien des frères et sœurs, s'encourager mutuellement à persévérer dans la foi. Et c'est un bel encouragement pour nous de voir que ce sera ces choses-là qui vont servir de vêtements à l'épouse. On a fait le tour maintenant de ces quatre points qui sont en rapport avec le retour de Christ. Et puis, on va essayer maintenant de voir dans quel ordre ils peuvent être mis dans le futur. Le premier modèle qu'on va voir, c'est le modèle amillénariste. Amillénariste, ça veut dire 100 millénaires. Dans ce modèle, on estime que le règne de Christ, il a commencé à la croix, puisque c'est là qu'il a vaincu Satan. Et puis, les 1000 ans dont il est parlé dans l'Apocalypse, ça signifie simplement une longue période de temps. À ce moment-là, Satan est lié. C'est plus une limitation de son action qu'un emprisonnement total. Et puis, comme le jugement dernier est souvent associé au retour en gloire de Christ, celui-ci doit avoir lieu après les 1000 ans et aboutirait dans l'état éternel. Donc concrètement, on voit que le règne céleste de Christ, donc le règne de 1000 ans, a commencé depuis la croix, et puis que là, on s'en irait vers la révélation de l'Antichrist et de la grande tribulation qui aboutirait avec le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, et la résurrection générale et le jugement final. Et puis ensuite, on entrerait dans l'éternité. Le problème avec ce schéma, c'est qu'il abandonne la lecture littérale de l'Apocalypse. Donc, on prend tout ou beaucoup de choses au sens figuré. Et puis, un autre problème, c'est que ce serait profondément décevant de penser que Satan est lié aujourd'hui quand on voit comment les choses vont autour de nous. Ceux qui retiennent ce modèle se considèrent déjà dans le règne de Christ. Puis on a parlé il y a quelques mois, je pense que c'est Claude Henry qui a envoyé un mail sur les enseignements d'une église aux États-Unis qui se propage de manière très large, aussi en Suisse romande. Et j'ai vu une vidéo d'un de ces prédicateurs qui enseigne à la lecture de tous les passages dans les évangiles où Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu s'est approché, qu'on est déjà dans le royaume de Dieu, et que les croyants sont aujourd'hui sur terre pour tourmenter le tourmentateur. On voit qu'on peut arriver dans des choses qui sont quelque peu farfelues si on retient ce genre d'interprétation de la venue de Christ. Ce modèle, donc, il est retenu par Origène, par Augustin. C'est aussi ce que le catholicisme retient, et puis aussi Henri Blocher. La raison pour laquelle j'avais envie de présenter ces quatre schémas qu'on va voir, c'est pour montrer que à la lecture des mêmes textes bibliques, on peut arriver à des conclusions différentes, et puis ça ne va pas remettre en cause le salut des croyants qui croient l'un ou l'autre de ces schémas, mais simplement ça va entraîner des conséquences différentes dans nos vies de tous les jours, comme quand on voit que certains de ces croyants se considèrent comme déjà dans le royaume de Dieu actuellement. On le fait avec humilité parce que s'il y a un modèle qui est à peu près juste, il y en a trois qui le sont beaucoup moins. Et puis, même en étant convaincu que d'avoir un modèle qui est peut-être plus cohérent que les autres, c'est possible qu'on se trompe. Donc, on le fait avec humilité et pas un esprit de jugement. Le deuxième modèle qu'on veut regarder, c'est le modèle post-millénariste. Dans ce modèle, qui était retenu par Justin Martyr, par Irénée, par Isaac Newton, par Charles Wesley, entre autres, eh bien, ils estiment que le retour de Christ aura lieu après le millénium, le retour en gloire. Et ce qu'on peut voir dans ce schéma, c'est que le temps de l'Église va finalement se transformer en millénium au fur et à mesure qu'il y aura des conversions massives sur le globe et que finalement le règne de Christ va s'instaurer progressivement et tranquillement jusqu'au retour de Christ qui aura lieu juste après la révolte finale de notre Christ et de la grande tribulation. Le problème avec ce schéma, c'est qu'il ne respecte pas la chronologie de l'Apocalypse, où la grande tribulation est clairement présentée comme arrivant avant le millénium. Et puis, un autre problème, c'est qu'on n'a pas non plus l'impression que les choses vont s'améliorer autour de nous et que le monde va en se christianisant, bien au contraire. Et puis, je m'excuse, je me suis trompé de ligne. Donc, les personnes qui retiennent ce modèle post-millénariste, il y a Daniel Whitby, John Owen et puis Pierre Courcial. On va voir maintenant le modèle prémillénariste classique, c'est lui qui est retenu par Justin Martyr, par Irénée, Isaac Newton et Charles Wesley. On voit dans ce schéma que on va vers l'Antichrist et la Grande Tribulation, on aura la résurrection, la première résurrection des croyants, l'Église enlevée à la rencontre de Christ pour régner avec lui, simultanément le retour de Jésus-Christ et l'entrée dans le millénium. Le problème avec ce schéma, comme les trois précédents, c'est qu'ils associent le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que les croyants qui pensent cela considèrent que l'Église va être enlevée à la rencontre du Seigneur en l'air et que le Seigneur va immédiatement redescendre accompagné de son Église. On voit que quand il viendra en gloire, il sera accompagné des saints. Et pour soutenir cela, il semble que le terme qui est employé dans 1 Thessaloniciens 4, où il dit « l'Église sera, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur en l'air », ce terme qui est utilisé pour le mot « rencontre », ça signifie souvent l'envoi d'une délégation qui va à la rencontre de quelqu'un pour l'accueillir de nouveau dans un mouvement de retour. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que dans les Écritures, l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire, ils sont souvent différenciés et en plusieurs manières dans les différents textes qui en parlent. On va en voir quelques-unes. Donc, la différence entre l'enlèvement et l'apparition en gloire. Dans l'enlèvement de l'Église, Christ vient dans les airs. On l'a lu dans 1 Thessaloniciens 4, nous irons à la rencontre du Seigneur en l'air. Dans Zacharie 4:14, lors du retour en gloire, et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Donc, Christ vient jusqu'à terre. Un deuxième point, l'enlèvement est un mystère de l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'on a lu aussi dans Corinthiens 15. Paul dit, voici, je vous dis un mystère quand il annonce l'enlèvement. Donc, pour le retour en gloire, il est souvent annoncé dans l'Ancien Testament. On le voit notamment dans le psaume 72, en Ésaïe 11 et puis dans Zacharie 14 qu'on a déjà cité plus haut. Un autre point, c'est que l'enlèvement est identifié comme le jour de Christ ou le jour de Jésus-Christ. En Corinthiens 1:8, on lit « pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est à quelque part logique que Jésus-Christ, qui est mort pour son assemblée, revient la chercher. L'apparition en gloire est identifiée comme le jour du Seigneur, où il reviendra avec l'autorité du Seigneur. On peut lire dans Thessaloniciens 2, verset 2, « comme si le jour du Seigneur était déjà là ». Ce sera un jour qui sera glorieusement vu de toute la terre. Le commentaire du disciple, c'est un ouvrage, un dictionnaire biblique, dresse ainsi une liste de 13 contrastes. Donc là, je vous en ai mis juste 3. 13 contrastes entre l'enlèvement et la révélation de gloire, ce qui nous permet de conclure que ces deux événements sont distincts. Et de plus, on peut voir 3 indications qu'il y aura un certain laps de temps entre les deux. On va lire le texte de Daniel 9, versets 24 à 27. C'est un texte qui nous donne assez précisément une idée de l'échelle de comment le futur va se dérouler depuis la déportation à Babylone jusqu'à l'établissement du règne de 1000 ans. Daniel 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour clore la transgression et pour finir avec le péché et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc là, clairement, il parle de l'établissement du règne de 1000 ans et ces 70 semaines correspondent à 70 semaines d'années. Donc, une semaine correspond à 7 ans. Et sache et comprends. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Dans ce verset-là, on voit que le décompte de ces 70 semaines, il commence avec la sortie de la parole pour rebâtir Jérusalem. Et c'est sous le règne d'Artaxerxès, et en 445 avant Jésus-Christ, et le départ de Néhémie pour rebâtir Jérusalem, que ce décompte commence. Et il parle dans ce verset 25 de 7 semaines. Ces 49 ans correspondent au temps de la reconstruction de Jérusalem sous Néhémie, où il y a eu, comme on peut le lire dans son livre, beaucoup de troubles. Et c'est là qu'il parle de la place et du fossé qui seront rebâtis en des temps de troubles. Verset 26. Et après les 62 semaines, donc c'est les 62 semaines qui vont suivre, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et là, on peut voir clairement qu'il parle de la crucifixion du Seigneur. Et ceux qui ont fait des calculs disent que depuis la période où Néhémie est parti, en fonction du mois où il est parti, ces 69 semaines se sont terminées plus ou moins le jour où Christ est entré glorieux à Jérusalem. Donc, une semaine avant sa crucifixion. Et le peuple du prince qui viendra détruire la ville et le lieu saint, et la fin sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Ici, une allusion à la destruction de Jérusalem par Titus en 70, donc environ 40 ans après la crucifixion de Christ. Mais l'horloge des 70 semaines s'est arrêtée au moment de la crucifixion, et la dernière semaine, on va la voir maintenant, verset 27, il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, donc cette dernière semaine des 70, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption de ce qui est décrété soit versée sur la désolée. Dans cette semaine, on voit déjà dans ce passage qu'elle est partagée en 2 fois 3 ans et demi avec... Au milieu de cette semaine, il y aura un acte abominable qui sera commis dans le temple à Jérusalem, et c'est là que la grande tribulation va commencer avec une persécution particulière des Juifs par l'Antichrist. Donc ça nous donne une idée du calendrier prophétique. Après, il y a dans la Bible plusieurs versets qui nous laissent entendre que l'Église ne va pas vivre cette tribulation. En 1 Thessaloniciens 1, verset 10, où Paul dit des Thessaloniciens qu'ils ont cru, « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. » Donc, on parle du retour de Christ des cieux, et c'est mis qu'il va nous délivrer de la colère qui vient. Donc, vraisemblablement, retirer l'Église avant la grande tribulation qui sera la colère de Dieu contre le monde révolté. On lit aussi dans Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Donc là aussi, Dieu s'adresse à l'église de Philadelphie en disant qu'il va la garder de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Donc c'est vraisemblablement de la grande tribulation qu'il parle à ce moment-là. Donc ça, c'est déjà un indice que l'Église sera retirée au moment de la grande tribulation. Un autre indice, c'est la structure du livre de l'Apocalypse. Dans les chapitres 1 à 3, on a l'introduction et les lettres aux sept églises. Et puis des chapitres 4 à 19, on ne voit plus l'Église comme étant sur la terre. Et elle n'est même plus du tout mentionnée jusqu'au chapitre 19, les versets 11 et suivants, où Christ, donc juste après les noces de l'agneau, et Christ revient sur la terre pour vaincre ses ennemis et établir son royaume. Donc c'est la fin de la tribulation. Encore un indice qui nous indique que l'Église ne sera plus sur la terre au moment de la grande tribulation. Et puis, un autre indice qui nous indique que l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire sont séparés par un certain laps de temps, c'est que lors de l'enlèvement, tous les chrétiens seront repris. Et quand Christ revient en gloire, il y a de nouveau des croyants sur la terre qui entreront dans le millénium. Donc il y a eu un laps de temps entre ces deux événements pour que des personnes encore puissent croire à l'évangile du royaume et se convertir. Et c'est donc avec ces considérations qu'on arrive au quatrième schéma, qui est le schéma qui peut être appelé dispensationaliste ou bien prémillénariste, pré-tribulationniste, donc qui sous-entend que Christ revient avant le millénium et avant la tribulation pour reprendre son Église. C'est ce qu'ont cru Scofield, Darby, Ryrie et Pache. On a ici le schéma où on voit que la prochaine chose qui va arriver dans le temps où on vit actuellement, c'est l'enlèvement de l'Église à la rencontre de Christ en l'air. Et cet événement sera probablement peut-être déclencheur ou en tout cas rapproché de la dernière semaine de Daniel. Et avec l'apparition d'Antichrist, sa prise de pouvoir sur le monde entier et la grande tribulation. À la fin de cette grande tribulation, Jésus-Christ reviendra avec ses saints pour vaincre l'Antichrist et établir le millénium, son règne millénaire. Donc, ce modèle il se démarque des trois précédents puisqu'il sépare l'enlèvement de l'Église du retour en gloire par ces sept années de tribulation. Et puis, ce qui en découle également, c'est que les promesses de Dieu, que Dieu a faites pour Israël lors de l'Ancien Testament, vont se réaliser pleinement durant le millénium. Ce que les autres schémas estiment que l'Église en est bénéficiaire de ces promesses. Ce schéma part aussi du principe qu'on appelle l'addition des vallées, c'est-à-dire que quelquefois dans la prophétie, il y a un événement ou plusieurs qui sont annoncés, et puis dans les faits concrètement, il peut y avoir des laps de temps importants entre deux, où des fois, il parle par exemple, de la résurrection, que le Seigneur parle de la résurrection, et au fait, cette résurrection a lieu plusieurs étapes, puisqu'il y a la résurrection des croyants endormis en Christ, ensuite les résurrections des croyants de la tribulation, à la fin du millénium, la résurrection des croyants du millénium, et puis la deuxième résurrection, qui est la résurrection des rebelles de tous les temps. Donc, quand Christ parle de la résurrection comme étant un événement, eh bien, il peut y avoir plusieurs événements qui sont distancés dans le temps. Le reproche qui est fait souvent à ce schéma, c'est qu'il y a très peu de références historiques qui lui sont données avant, notamment Darby et puis Moody. J'ai le souvenir, je ne peux pas vous citer la source plus précisément, d'avoir entendu Roger Libby dire qu'on en trouvait quand même des références comme quoi parmi les premiers chrétiens dans les premiers siècles, les croyants attendaient quand même un retour de Christ pour son Église quelque temps avant le retour en gloire. Et puis, aussi selon Roger Libby, eh bien, qui a plus étudié la prophétie que moi, c'est le modèle dans lequel les prophéties bibliques s'harmonisent le mieux, où on a le moins besoin de forcer les textes dans le schéma, pour ainsi dire. Et puis, aussi dans ce schéma-là, on voit qu'il y a vraiment une parenthèse de l'Église. On voit l'Église qui a commencé à la Pentecôte et le temps de l'Église qui se termine à l'enlèvement. Et à ce moment-là, l'horloge prophétique des 70 semaines de Daniel peut reprendre pour arriver à aboutir au millénium. Une des particularités de ce schéma par rapport aux trois autres aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça m'a, je peux dire, presque choqué quand je l'ai réalisé, c'est que si on revient en arrière, voilà le modèle pré-tribulationniste, ce que les croyants des autres schémas attendent, c'est l'avènement de l'Antichrist et la grande tribulation. Si on retient ce schéma, ce que les croyants peuvent attendre, c'est le retour de Jésus-Christ pour enlever l'Église. J'ai cité les différentes raisons pour lesquelles je pense que ces deux événements sont l'enlèvement de l'Église et le retour en Christ aux gloires sont séparés. Il y a une autre chose qu'on peut retenir, c'est que dans le discours de Luc 21, qui est le discours parallèle à Matthieu 24 qu'on a lu au début, quand Christ... On va lire le verset, c'est Luc 21. On a dit que Christ répond à ses disciples, il ne mentionne pas la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. Dans le passage parallèle, en Luc 21, au verset 20, il dit « Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que la désolation est proche, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem se retirent. » Et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elle, donc en Jérusalem. Les croyants qui ont lu cette prophétie en 68-70 ont vu les armées de Vespasien arriver pour assiéger Jérusalem. Ils ont été pris dans Jérusalem, et puis à peu près à ce moment-là, Néron est mort, et Vespasien est reparti à Rome pour la course au trône de l'empereur, je ne sais pas comment il faut dire. Et le siège a été levé pendant quelques temps et les chrétiens ont pu sortir de Jérusalem. À peu près à ce moment-là aussi, il y a eu la Pâque juive et une quantité massive de juifs est entrée à Jérusalem qui ont été pris ensuite dans le siège. Il semble qu'il y avait à peu près 1 100 000 personnes dans Jérusalem au moment du siège final. Il y a eu, sauf erreur de tête, à peu près 1 000 000 de morts et 100 000 captifs. Et le Seigneur a permis que les chrétiens soient délivrés de ce jugement. La destruction de Jérusalem a clairement été une conséquence du rejet de Christ. Toutes les prophéties du Deutéronome qui parlent de cela se sont littéralement du rejet du Messie se sont littéralement accomplies dans la destruction de Jérusalem et c'était vraiment un jugement contre les Juifs qui avaient rejeté le Messie et les chrétiens en ont été délivrés. La grande tribulation sera un jugement contre le monde qui a rejeté Dieu. Et je pense que ce n'est pas déraisonnable de penser que Dieu retire l'Église du monde à ce moment-là. Et en plus, ça nous donne le privilège d'attendre le retour de Christ plutôt que la grande tribulation. Alors, on va essayer de tirer rapidement quelques conclusions. Puisque ce modèle-là nous donne aussi un écho particulier aux exhortations du Seigneur en Luc 12, 35-36, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître à quelque moment qu'ils reviennent des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. » On est exhorté à veiller jusqu'au retour du Seigneur pour enlever son Église, et ce passage-là a vraiment un écho particulier quand on attend le retour du Seigneur plutôt que la tribulation. Donc, voilà plus ou moins les passages que je voulais apporter ce soir. Et puis, en conclusion, on peut lire ces versets qui sont parmi les derniers de la Bible. « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, et celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » C'est particulièrement nourrissant pour la foi de considérer le retour de Christ. J'espère que j'aurai pu transmettre un petit peu de tout le plaisir et la joie que j'ai pu voir à relire et à étudier ces passages. Je l'ai fait avec précaution. Avant de prendre la moindre note, j'ai tourné en rond dans des livres pendant longtemps pour essayer d'avoir les choses un peu claires dans la tête et puis pas dire des bêtises parce que on a vite fait partir sur des fausses idées. Et puis vraiment que ces quelques passages nous encouragent à attendre le retour de Christ pour enlever son Église et puis pour entrer dans la gloire avec lui, et il y aura le tribunal du Christ, mais il y aura les noces de l'agneau qui sont peut-être le moment le plus glorieux de toute l'histoire de l'humanité, alors que cela puisse nous encourager.